conférences et débats.
Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette rencontre autour du livre de Gouzel Yakhina, Zulekha ouvre les yeux, qui vient de paraître aux éditions Noir sur Blanc. Donc voici un bel exemplaire. Gouzel Yakhina est née à Kazan, en République du Tatarstan. Elle vit actuellement à Moscou. Elle parle l'allemand et l'anglais, pas seulement le russe. Et son premier roman, Zulekha ouvre les yeux, est paru en 2015 en russe. Il sort aujourd'hui en traduction française. Il est également traduit dans de nombreuses autres langues. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un roman qui a immédiatement rencontré un succès énorme, un succès à la fois public et critique, ce qui est assez rare et mérite d'être mentionné. C'est un best-seller en Russie. C'est aussi un ouvrage qui a obtenu de nombreux prix, dont un prix important en Russie qui s'appelle Balshaya Kniga, le grand livre. C'est un livre qui a fait parler de lui, beaucoup fait parler de lui. On va voir pourquoi et comment. Mais avant tout, je vais vous présenter nos invités. Gouzel Yakhina, c'est fait, mais il y a aussi à sa gauche Maud Mabillard, qui est la traductrice, qui va aussi répondre à quelques questions, puisqu'il nous sera question, il sera question ici du livre, mais aussi du processus de traduction. Maud Mabillard est elle aussi auteure. Elle a publié non pas un roman, mais un essai, une enquête autour de la terroriste Natacha Klimova, dont on a aussi suivi les pérégrinations à travers la Russie et l'Europe. Mais elle est surtout traductrice. Elle est traductrice depuis une petite quinzaine d'années. Elle a traduit pour les éditions Noir sur Blanc Nikolai Bokov, Roman Senshin et désormais Gouzel Yakhina. Notre intervention d'aujourd'hui s'appelle « Des plaines tatares à la Sibérie ». C'est le titre de notre débat, c'est aussi une invitation au voyage, un voyage donc qui va se faire avec sous les auspices de Zulekha, avec elle, à travers la Russie du XXe siècle. Zulekha ouvre les yeux, ce roman, c'est une invitation au voyage également, mais un voyage assez terrible, car il se passe et se déroule à une période difficile, sombre, de l'histoire de la Russie du XXe siècle. Ce sont les années 30 qui sonnent le début de la terreur soviétique, le tout début de la terreur soviétique, une période qu'on a nommée la découlakisation. C'est de découlakisation que nous parle ce roman. Alors, qu'est-ce que la découlakisation ? La découlakisation, c'est la déportation, l'élimination, parfois, de centaines de milliers de familles de paysans. Une déportation en Sibérie, essentiellement, au Kazakhstan également. Des paysans qu'on appelait les koulaks, parce qu'on estimait qu'ils étaient trop riches, souvent totalement à tort. Hostile au pouvoir, ça, ça pouvait être vrai, contre-révolutionnaire et profondément individualiste. C'est le contexte historique du roman, un contexte qui est extrêmement bien rendu dans ce roman, sur lequel on va un petit peu revenir plus tard. Ce contexte historique est porté par donc un personnage, l'héroïne du roman, Zulekha, dont nous allons un peu parler, parce que c'est elle qui nous guide et nous mène à travers la Sibérie et jusqu'au plus profond de la Sibérie. Elle nous mène à travers différents lieux. C'est ce qui est intéressant aussi dans ce roman, c'est quatre lieux spécifiques qui sont présentés, à chaque fois avec leur univers, et c'est à travers ces quatre lieux que nous allons aussi mener notre discussion aujourd'hui. Donc je le disais, le fil conducteur, c'est Zuleikha, d'où ma première question toute simple à Gouzel. Zuleikha, qui est-elle? Est-elle cette poule mouillée dont la première partie porte le titre? Est-elle autre chose? Présentez-nous Zuleikha, s'il vous plaît.
Добрый день и спасибо большое, что пришли на эту встречу.
Bonjour et merci beaucoup d'être venu à cette rencontre.
Итак, Зулейха, татарская крестьянка, ей 30 лет, и действие начинается в 1930 году, то есть она ровесница 20 века.
Donc Зулейха, c'est une paysanne tatare, elle a 30 ans, elle a donc l'âge du siècle puisque le livre commence en 1930.
Но в начале книги я очень надеюсь, что мне удалось это сделать. Читатель не понимает, какое это время. 100 лет назад, 200, а может быть 500.
Mais au début du livre, j'espère que j'ai réussi à le faire. Le lecteur ne comprend pas à quelle période nous sommes. Ça pourrait être il y a 100 ans.
Потому что Зулейха живет жизнью, которой жили ее прабабушки и прапрабабушки.
Parce que Зулейха vit la même vie que celle de sa grand-mère, son arrière-grand-mère.
Она живет в деревне, очень далеко от больших городов, в маленьком доме мужа, нелюбимая мужем и нелюбимая собственной свекровью.
Elle vit loin de la ville, à la campagne, dans l'изба de son mari qui ne l'aime pas, et avec sa belle-mère qui ne l'aime pas non plus.
Она общается в основном с Аллахом и с теми духами домовыми, которые, как ей верится, окружают ее в этом мире.
Et la plupart de ces conversations, elles ont lieu avec Allah, et ou avec les esprits, l'esprit de la maison, de la forêt, etc., qu'elle ressent partout, dont elle pense qu'ils sont présents partout autour d'elle.
Четыре дочери Зулейхи, которых она родила, умерли в младенчестве.
Зулейха a donné naissance à quatre filles qui sont mortes en bas âge, enfin même très tôt.
И каждое утро Зулейхи начинается с того, что она выносит полный ночной горшок своей свекрови. Этим все сказано.
Et chaque journée de Zuleikha commence par le fait qu'elle doit sortir et vider le pot de chambre de sa belle-mère, et je pense que ça explique, ça dit tout.
Вот такое достаточно забитое, маленькое, скромное, тихое существо, которое в принципе довольно своей жизнью, потому что другой жизни она не знает.
Donc c'est une personne comme ça très qui vit une vie très renfermée, mais qui en principe est contente de sa vie parce qu'elle n'en connaît pas d'autre.
Когда в дом приходят красноармейцы и раскулачивают мужа Зулейхи, убивают ее при этом, Зулейху вырывает судьба из родного дома и проносит через всю практически страну в Сибирь.
И когда des soldats de l'armée rouge s'introduisent dans sa maison et l'en font partir en tuant son mari, c'est le destin qui la retire à cette vie et qui lui fait traverser tout le pays.
И то путешествие, которое Зулейха осуществляет, проделывает через многие тысячи километров, это путешествие не только географическое, оно также еще и ментальное, потому что в ходе него она изменяется.
Et ce long chemin que fait Зулейха sur des centaines, des milliers de kilomètres, ce n'est pas seulement un chemin géographique, c'est aussi un cheminement mental, parce que sa vie et sa façon de voir la vie changent.
И в конце романа, уже после 16 лет от начала, она будет совсем другим человеком, но к этому мы придем позже.
Et à la fin du roman, c'est-à-dire 16 ans plus tard, elle sera devenue une toute autre personne, mais ça, on en parlera après.
Merci pour cette belle introduction qui nous mène directement au cœur du roman. Zulekha, vous l'avez dit, une paysanne tatare. Ça me mène aussi à ma première question, parce qu'on est ici en Suisse. Tout le monde ne se représente pas parfaitement bien le Tatarstan, Kazan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux ce qu'est le Tatarstan, sa place en Russie, par rapport à la Russie, historiquement, géographiquement, et puis aussi l'importance du Tatarstan dans votre vie.
Tatarstan, Tatarie, est un région au centre de la Russie.
Le Tatarstan ou la Tatarie, c'est une région au centre de la Russie.
On est à Volga,
sur la Volga.
Et la population du Tatarstan составляет 4 миллиона человек, то есть ровно в два раза меньше, чем население Швейцарии.
Donc la population du Tatarstan est de environ 4 millions de personnes, donc peut-être deux fois moins qu'en Suisse.
Это самая северная точка, насколько я знаю, где исповедуют ислам.
Et c'est pour ce que j'en sais, c'est la région la plus au nord où la religion est l'islam.
И для меня до сих пор Казань это символ толерантности и мирного очень гармоничного сосуществования двух культур, двух народов, татарской и русской.
Et pour moi, Kazan a toujours représenté une ville de la tolérance, parce que c'est une ville où vivent et où cohabitent harmonieusement deux cultures différentes, la culture tatare et la culture russe.
Конечно, я пользуюсь случаем и обязательно приглашаю вас в гости в Казань.
Et bien sûr, j'en profite pour vous inviter à découvrir vous-même Kazan. Venez nous rendre visite.
Потому что это город, где рядом стоят мечети и православные церкви. И даже в Кремле, в главной точке города, на расстоянии буквально 20 метров друг от друга, стоят соборная мечеть и соборный православный храм.
Et donc c'est quand même une ville où à l'intérieur du Kremlin, c'est-à-dire de la vieille ville fortifiée, se trouve à quelques dizaines de mètres l'une de l'autre l'église principale et la mosquée principale.
Это заняло, конечно, немножко времени, а именно 450 лет, чтобы народы так мирно стали научились уживаться друг с другом.
Évidemment, ça a pris un peu de temps, je peux dire 450 ans, pour que ces deux cultures et les gens apprennent à vivre harmonieusement ensemble.
Потому что Казанское ханство было завоевано Россией во времена Ивана Грозного.
Parce que le khanat de Tatari, de Kazan, a été conquis au temps de Ivan le Terrible.
Это было в 1552 году.
En 1552.
И теперь, наконец-то, мы научились мирно жить друг с другом.
Mais maintenant, enfin, on a appris à vivre en paix les uns avec les autres.
Более того, процент смешанных браков русских и татар, которых примерно одинаковое количество в Татарстане, татар 48%, русских 43%, процент этих смешанных браков 30%. Он не меняется с советских времен.
Et je peux aussi dire que donc dans le Tatarstan, il y a environ il y a 48% de Tatars et 43% de Russes donc dans la population, mais le pourcentage de mariage entre Russes et Tatars, de mariage mixte, est de 30%, et c'est un pourcentage qui n'a pas changé depuis l'époque soviétique.
Поэтому здесь, в Швейцарии, в такой же мультикультурной стране, или, допустим, в Сингапуре, мне очень многое напоминает о родной Казани.
Et c'est pour ça que, par exemple, un pays comme la Suisse, avec multiculturel, me rappelle un peu Kazan.
Ну, теперь рекламная пауза Казани закончена, давайте вернемся к роману.
Mais maintenant, on a parlé de Kazan, on peut revenir au roman.
Magnifique comme vous arrivez à me rendre la parole avec beaucoup d'élégance. Justement, oui, vous nous dressez un tableau presque idyllique du Kazan d'aujourd'hui. Dans le roman, c'est beaucoup plus sombre. La première partie est noire, est dure. Zuleika vit, vous l'avez dit, dans des conditions assez difficiles. Est-ce que ce... Avant de revenir à Zuleika, j'avais quand même une petite question par rapport à l'exotisme. Donc Tatars et Russes vivent en bonne harmonie actuellement au Tatarstan, mais de même que peu de Suisses se sont rendus aujourd'hui au Tatarstan, et peu de Russes, je crois, connaissent Kazan. Est-ce que votre roman est exotique pour le lecteur russe autant qu'il est exotique pour le lecteur suisse ?
Да, мне очень хотелось, чтобы первая часть романа была национальная, татарская.
Oui, j'avais vraiment un profond désir que la première partie reste très tatar, nationale tatar.
Поэтому первая часть – это очень густо сконцентрированная, фольклорная, такая национальная часть.
Donc c'est vrai que dans la première partie, il y a toute cette partie, vraiment une partie presque folklorique sur ces détails de la vie tatar.
Описаны разные детали жизненные, бытовые, и очень много лексики татарской, которая вплавлена в русский текст.
Il y a beaucoup de détails de la vie quotidienne, et il y a aussi beaucoup de mots татарs qui sont dans le texte russe.
Однако по мере продвижения по роману постепенно это уходит, потому что меняется ментальность Зулейхи.
Mais à mesure qu'on avance dans le roman, le côté tatar prend de moins en moins de place parce que Zuleika elle-même change.
Тот поезд, тот вагон телячий для зверей, да, для скота, который увозит Зулейху и ее спутников в Сибирь, в этом вагоне она знакомится с новыми людьми, начинает говорить на другом языке, на русском языке, ну и далее обнаруживает, что беременна и сохранит этого сына, который в ней живет.
Et dans le wagon à bestiaux qui va l'amener en Sibérie, Zuleïkha rencontre de nouvelles personnes. Elle parle une nouvelle langue, elle parle russe, et elle apprend qu'elle est enceinte et elle aura un enfant qui va survivre.
И постепенно, по мере продвижения и Зулейхи, и читателя по романному действию, хотелось, чтобы роман из национального вырос в такой интернациональный.
Et à mesure que le roman avance, je voulais qu'il passe d'un roman national, c'est-à-dire tatar, à un roman plus international.
Потому что одна из главных мыслей романа, и к ней приходят и Зулейха, и другие герои в конце книги, о том, что, в общем-то, национальное в человеке не так важно, как человеческое.
Parce qu'une des idées principales du livre, et les personnages s'en rendent compte petit à petit, c'est que le plus important, ce n'est pas à quelle nation, ethnie on appartient, mais c'est d'être des gens, que tout le monde, c'est l'humain.
В том таежном поселении, где Зулейха в конце концов окажется, будут люди очень разных национальностей, очень разных классов, очень разных религий, и все они должны будут плыть в этом поселке, как в Ноевом ковчеге, и держаться вместе.
Et dans le village au fin fond de la taïga où se retrouve Zulejka, il y a beaucoup de gens qui appartiennent tous à des classes, à des religions, qui ont des origines différentes, et tous vont devoir naviguer ensemble sur cette arche de Noé.
Но начало, да, вы совершенно правы, было воспринято за пределами Татарстана как нечто экзотическое.
Mais vous avez raison, le début du livre a été reçu, ressenti en Russie comme quelque chose d'exotique.
Хотя для моих друзей в Татарстане в этом не было ни малейшей экзотики.
Même si pour mes amis tatars, eux n'y ont rien vu d'exotique du tout.
Потому что все те детали, которые я описывала в начале романа, в общем-то, они мною просто взяты из моих воспоминаний о жизни в доме бабушки и дедушки.
Parce que tous ces détails sur la vie quotidienne dans une maison tatar, je ne les ai pas inventés, ils me viennent de mes souvenirs de la vie dans les maisons de mes grands-parents.
Маленький один пример. В романе описываются, например, ворота дома Зулейхи, на которых прибиты черепа умерших животных.
Un petit détail pour vous expliquer. Par exemple, dans le roman, je décris le portail de la maison, autour de la maison de Zulejka, sur lesquels sont cloués les crânes d'animaux morts.
Точно такие же черепа висели в доме моих бабушки и дедушки в 80-е годы прошлого века в черте Казани.
Or, j'ai vu les mêmes crânes, ces crânes-là, je les ai vus cloués sur la maison de mes grands-parents jusqu'en 1980 et à l'intérieur de Kazan, dans la ville.
Это были, конечно, остатки каких-то языческих верований. Бабушка с дедушкой не верили в духов, но вешали эти черепа так, как делали их прапрадеды.
C'était bien sûr des restes de croyances païennes, de croyances aux esprits, et mes grands-parents n'y croyaient pas du tout, mais par habitude, ils clouaient ces crânes comme le faisaient leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents avant eux.
И после выхода книги мои казанские друзья говорили: «Да, мы помним, такие же черепа висели и в доме наших бабушек, дедушек».
Et quand le livre est sorti, j'ai des amis à Kazan qui m'ont dit: «Oui, on se souvient, on avait les mêmes crânes sur les maisons de nos grands-parents, etc».
Поэтому, да, какой-то экзотики такой достаточно много, но при более внимательном рассмотрении она оказывается не экзотикой, а, собственно, тем, что еще мы, вот мое поколение, застало в доме наших бабушек и дедушек.
Donc oui, on peut dire qu'il y a ces moments exotiques, mais finalement, c'est les moments que moi, j'ai encore pu voir, j'ai pu être témoin de ces particularités dans la maison de mes grands-parents.
Alors cette question de l'exotisme me permet de poser ma première question à Maude Mabillard, qui doit à la fois travailler comme traductrice, mais aussi répondre à quelques interrogations. Évidemment, c'est un enjeu, une difficulté de plus que de devoir avoir affaire avec un double exotisme pour le lecteur suisse, non seulement l'exotisme russe, mais en plus l'exotisme tatar. Est-ce qu'au niveau de la langue, il s'est passé quelque chose de particulier dans cette traduction qu'il n'y avait peut-être pas dans d'autres traductions? Comment vous avez fait en sorte de régler ces questions?
Alors je pense que sur ce point-là, vraiment, presque tout le travail avait été fait par Gouzel. C'est-à-dire que elle amène très bien dans le texte toutes les particularités tatares. Elle utilise des mots tatares, mais elle les explique très subtilement et on le lit très facilement. Donc comme c'était le cas en russe et qu'il y avait l'exotisme pour les Russes, je n'avais qu'à reproduire ça. Et je pense que comme c'est un roman historique qui part d'une période que les Russes d'aujourd'hui n'ont pas vécue, les événements, les relations étaient suffisamment expliquées. Pour moi, c'était presque un des livres, de ce point de vue-là, seulement de ce point de vue-là, les plus faciles à traduire, dans le sens où je trouvais que presque toutes les explications étaient données de nouveau très subtilement, naturellement dans le texte. Et j'ai peut-être dû un peu influencer pour que ça soit encore plus compréhensible, mais j'ai vraiment eu peu à faire là-dessus.
Alors, il faut dire qu'il y a un lexique tatar qui existe à la fois dans la version russe et qui a été maintenu dans la version française. Vous avez fait ce choix. D'autres traducteurs, je crois, ont décidé de traduire les mots tatars vers la langue de l'édition. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez peur du tatar, vous aurez tout le vocabulaire nécessaire à la fin. Mais en effet, comme le disait Maud, le texte se lit sans qu'on ait vraiment de nécessité de recourir à ce lexique. C'est un petit plus à la fin, un petit plus exotique à la fin. On va revenir au personnage de Zuleïkha. Vous avez mentionné votre grand-mère. Elle est, je crois, le modèle, la personne qui a servi de modèle à Zuleïkha. Est-ce que le destin de votre grand-mère était aussi difficile que celui de Zuleïkha? Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de cette filiation, de ce rapport entre votre grand-mère et Zuleïkha?
Да, эта история вдохновлена жизнью моей бабушки.
Oui, cette histoire a été inspirée par la vie de ma grand-mère.
Другое дело, что мою бабушку, вернее ее родители, раскулачили, когда бабушке было 7 лет.
Ceci dit, ma grand-mère avait 7 ans quand ses parents ont été découlaquisés, donc elle n'avait que 7 ans.
Их отправили в Сибирь, и 16 лет бабушка провела на берегу Ангары, вот в точно таком же поселке, как я описала в романе.
Et donc elle a été envoyée avec ses parents en Sibérie et elle a vécu 16 ans au bord de l'Angara en Sibérie dans un village qui ressemble beaucoup à celui, enfin qui est exactement comme celui que j'ai
spustia
au même endroit que le village que je décris dans le livre.
Спустя 16 лет она вернулась обратно в родную деревню, но уже подзабывшая основательно татарский язык, потому что она росла среди русских людей и говорила по-русски с сибирским акцентом.
Et 16 ans plus tard, elle a pu rentrer au Tatarstan dans son village tatar, mais ayant oublié la langue tatar parce qu'elle vivait dans la taïga avec des Russes, parlait russe, et elle avait oublié le tatar, elle parlait russe en plus avec un accent sibérien.
Мне же была интересна история не маленькой девочки, которая растет на Ангаре, а история взрослой женщины, которая вдруг внезапно получает второй шанс в жизни и проживает эту вторую жизнь, отличную полностью от первой.
Mais moi, je n'avais pas envie de raconter l'histoire d'une petite fille qui grandit au bord de l'Angara. Je voulais raconter l'histoire d'une femme déjà faite qui reçoit une deuxième chance dans sa vie, de vivre une seconde vie et qui va la vivre.
Из жизни бабушки я взяла маршрут географический из татарской деревни в Казань, далее в Красноярск и по рекам, по Енисею, Ангаре до места ссылки.
De l'histoire de ma grand-mère, j'ai pris le trajet que fait Zuleïkha, c'est le même que celui de ma grand-mère, d'un petit village du Tatarstan à Kazan, et de Kazan à Krasnoyarsk, et après remonter l'Enissée, redescendre l'Angara jusqu'à un petit village dans la Taïga.
Также из жизни бабушки взят временной период, 1930-46 годы.
J'ai également pris de la vie de ma grand-mère la chronologie, c'est-à-dire que l'exil a lieu en 1930 et se termine en 46.
И два эпизода, которые вошли в роман, также рассказаны бабушкой. Первый эпизод – это гибель баржи. Есть такая глава, которая называется «Баржа», и она описывает гибель баржи большой, набитой заключенными, которые тонет в Ангаре.
Et deux épisodes sont pris directement de la vie de ma grand-mère. Le premier, c'est l'épisode de la péniche, qui est le chapitre La péniche dans le livre, qui raconte comment une péniche pleine de déportés a coulé.
Такое было на самом деле, просто в жизни бабушкиной это было две баржи, которые шли одна за другой, и одна затонула, а люди на второй стояли и смотрели, как тонет первая. И бабушка была на второй.
Donc ce lieu, cet épisode a réellement eu lieu, c'est-à-dire que dans le livre il n'y a qu'une péniche, mais dans la réalité il y avait deux péniches, donc une qui a coulé, et sur la deuxième péniche où il y avait ma grand-mère, les gens ont vu cette péniche remplie de gens couler devant eux.
Et еще один эпизод, который также взят из жизни реальной бабушки, это эпизод с обучением в школе.
Et un deuxième épisode qui est tiré directement de la vie de ma grand-mère, c'est un épisode à l'école.
Сына Зулейхи учит в романе преподаватель по собственному учебнику.
Dans le roman, le fils de Zulejha a un instituteur qui est l'auteur du manuel qu'ils utilisent à l'école.
И это совсем не было выдумкой. Мою бабушку учил математике автор учебника математики, по которому учились дети в Советском Союзе.
Et là, je n'avais rien inventé. Ma grand-mère a eu comme enseignant de mathématiques l'homme qui avait écrit le manuel qu'utilisaient tous les écoliers à l'époque soviétique.
Это историческая правда. Порой в ссылке в каком-нибудь таежном поселении можно было встретить самых разных людей, включая интеллектуалов, получить лучшее образование, чем, допустим, в родном городе.
Et c'était donc ça, c'est une vérité historique. On pouvait se retrouver au fin fond de la taïga et rencontrer parmi toutes ces personnes des intellectuels et recevoir une éducation peut-être même meilleure qu'en ville.
Вот это, пожалуй, все. Остальные детали, которые описаны в книге, они либо вымышлены, либо большей частью взяты из мемуаров других раскулаченных.
Et ce sont les seuls moments qui sont pris directement de la vie de ma grand-mère. Tout le reste, c'est soit des éléments inventés, soit des éléments qui sont tirés de mémoire d'autres gens qui ont été découlacisés.
Перед тем, как писать роман, я, конечно, много их прочитала, благо они теперь есть в открытом доступе в интернете, и какие-то вещи включила в романную ткань.
Avant d'écrire le livre, j'ai lu beaucoup de ces mémoires de découlacisés. On les trouve maintenant sur Internet. L'accès est facile. Et j'ai pris certains épisodes pour les mettre dans mon livre.
Et после выхода книги у меня получилось второе погружение в материал, совершенно необычное.
Et après la sortie du livre, en fait, je me suis de nouveau retrouvée avec de nouveaux documents de façon assez inhabituelle.
Мне стали писать читатели и рассказывать судьбы своих бабушек, дедушек, родителей, упоминая о том, что такие эпизоды, которые вы описываете, они случались с ними.
Après la sortie du livre, des lecteurs ont commencé à m'écrire et à me raconter que leurs parents, leurs grands-parents avaient vécu certains épisodes qui étaient dans le livre.
Потому что очень многие эпизоды, как выяснилось, действительно повторялись в очень разных судьбах.
Parce que j'ai pu le constater, beaucoup de ces épisodes, ils se sont répétés dans plusieurs destins.
Например, такая ситуация, как пришли ночью и раскулачили ночью, увезли ночью, когда люди еще сонные и не могут сопротивляться.
Par exemple, comme dans mon livre, le fait qu'on vient arrêter les gens, les déporter la nuit pour qu'ils soient un peu endormis et qu'ils opposent moins de résistance.
Или ситуация, когда везли по железной дороге очень долго и не знали, куда их везут.
Ou alors le fait que ces gens se retrouvent dans les wagons, qu'on les emmène quelque part très longtemps et qu'ils ne savent pas où ils vont.
Так что, отвечая на ваш вопрос, это роман скорее не биографический, вернее, совсем не биографический, но вдохновленный судьбой реальных людей.
Donc, pour répondre, je peux dire que c'est un roman qui est pas du tout, où l'élément biographique n'est pas le plus important, mais qui parle du destin de plusieurs personnes. Où je me suis inspirée du destin de plusieurs personnes.
On sent beaucoup ce fond historique, cette envie aussi peut-être de témoigner de quelque chose. De même, on a l'impression que la question de la transmission est importante. Dans le sens où Zulejha, elle fait tout ce voyage, elle transporte avec elle un certain savoir, même si c'est une paysanne, des croyances aussi. Et tout au fond de la Sibérie, au bord de l'Angara, elle va quand même tenter de transmettre à son fils ce savoir, ses connaissances, des contes merveilleux que vous traduisez avec talent. Est-ce que c'est important, cette idée de transmission et cette idée de témoignage? Est-ce que vous êtes aussi la petite fille et non pas la fille de ce prototype? Est-ce qu'il y a pour votre génération un désir de transmission, un désir de témoignage?
Да, мне кажется, это очень важный вопрос.
Oui, je crois que c'est une question très importante.
Особенно в России, где из-за трагических обстоятельств очень многие связи родственные порваны.
Surtout dans un pays comme la Russie, où à cause de son histoire très tragique, beaucoup de liens entre les, dans les familles ont été rompus.
Часто в России не знают, кто были бабушки, дедушки, куда они были сосланы, почему пропал дедушка. И эти вопросы, по крайней мере, раньше мало проговаривались.
En Russie, souvent, les gens ne savent pas qui étaient les grands-parents, où ils ont été envoyés, pourquoi le grand-père a disparu. Et pendant très longtemps, on ne parlait pas de ces questions.
Целое поколение людей, те, кто родились в 20-е, 30-е годы, их называют молчащим поколением.
Toute une génération, la génération des gens qui sont nés dans les années 20-30, on appelle ça la génération des gens qui se taisaient.
Потому что они так многое пережили, так много испытали, что они предпочитают молчать о тех ужасах, которые видели, нежели рассказывать.
Parce qu'ils ont vécu des choses si difficiles qu'ils préfèrent se taire et ne pas les raconter.
Например, мой дедушка прошел всю Вторую мировую войну.
Par exemple, mon grand-père a vécu la Deuxième Guerre mondiale.
Мы с ним очень близко общались, и он умер недавно, 5 лет назад.
Nous étions proches, on a beaucoup discuté, il est mort il y a pas longtemps, il y a 5 ans.
Но он ни единого слова за всю жизнь не рассказал мне о том, что было на войне.
Mais de toute sa vie, il ne m'a pas dit un mot sur ce qu'il a vécu pendant la guerre.
Если я захочу узнать об этом, я должна буду читать воспоминания других людей.
Et si je veux essayer de comprendre ce qu'il a pu vivre, je dois lire des mémoires d'autres personnes.
Тех, кто все-таки отважился написать.
Des mémoires de ceux qui ont osé, qui ont réussi à écrire.
Поэтому, да, конечно, мне хотелось изложить то, что рассказывала бабушка, передать какие-то ее ощущения, передать ее слова в чем-то.
Donc bien sûr, oui, j'avais très envie d'écrire ce que m'avait raconté ma grand-mère, de mettre des mots dessus et de le transmettre.
И меня особенно радует, когда мою книгу читают молодые люди.
Mais je suis particulièrement contente quand c'est des jeunes qui lisent mon livre.
У кого были раскулачены не бабушки, дедушки, а прабабушки, прадедушки.
Dont ce ne sont plus les grands-parents qui ont été découlakisés, mais les arrière-grands-parents.
On revient à nouveau au livre, donc on a cette première partie qui se déroule dans un lieu très confiné, c'est la maison de Zuleikha, ce petit village à quelques kilomètres de Kazan. Et puis la deuxième partie du roman, c'est une ouverture géographique incroyable, parce qu'on va quitter cet espace confiné, étroit, étouffant de la maison, pour partir vers la Sibérie. Alors ça sonne un petit peu comme un voyage idyllique, ce n'est évidemment pas le cas, vous l'avez dit, ce sont des conditions terribles de la déportation, avec beaucoup de morts, des scènes qui font froid dans le dos. C'est aussi des pages qui s'inscrivent dans une certaine histoire littéraire. Justement, la littérature de témoignage, littérature du témoignage de l'expérience concentrationnaire. C'est une ligne de l'histoire littéraire qui a été beaucoup travaillée, beaucoup creusée par Solzhenitsyn, par Chalamov, par Ginsburg. Et si on connaît un petit peu la littérature russe, on ne peut pas s'empêcher de penser à ces auteurs quand on lit vos pages. C'est pourquoi j'aimerais vous demander à quel point ces auteurs-là sont pour vous une référence. Est-ce que vous les avez relus? Est-ce que ce sont un poids? Est-ce que vous vouliez vous en détacher, faire une nouvelle histoire de ces moments tragiques?
Да, в России очень богатая традиция романов о ГУЛАГе.
Oui, en Russie, il y a une grande tradition du roman sur le goulag.
Но когда я начала, решила писать текст, я себе запретила читать все, что я до этого читала на эту тему художественного.
Mais quand j'ai commencé à travailler sur ce livre, à écrire ce texte, je me suis interdite de relire quoi que ce soit dans la de roman, donc de fiction sur ce sujet.
Шаламов, Солженицын, Гинзбург, все это я запретила себе читать, потому что я боялась, что их влияние, которое и так велико, станет еще больше.
Donc je me suis interdit de relire Solzhenitsyn, Shalamov, of Ginsburg parce qu'ils ont une telle influence que ils m'auraient influencé.
Et я читала исключительно документальные источники.
Et donc je n'ai lu que des sources documentaires.
Другое дело, что мне, конечно, льстит, когда мой роман относит к лагерной литературе.
C'est évidemment pour moi c'est un compliment quand on met mon roman dans cette tradition de roman sur le goulag.
Но в отличие от классиков, я не ставила перед собой задачи рассказать об этой теме.
Mais on peut dire que au contraire des classiques, je n'avais pas pour but de raconter, de témoigner sur ce qui se passait.
Потому что тема это известные цифры, и мне было интереснее и важнее, соблюдя весь исторический контекст и доведя эти детали до какой-то аутентичности, все-таки рассказать больше человеческую историю.
Parce qu'aujourd'hui tout est connu, on a les chiffres, les choses sont connues. Pour moi, ce qui était plus important, tout en étant parfaitement juste dans le contexte historique, dans les détails, en rendant bien le contexte, c'était de parler du destin de personnes.
То есть говорить о раскулачивании кулацкой ссылки, а рассказать о человеке, вот этого хотелось.
Donc mon but n'était pas de parler de la découlakisation, mais de parler de personnes, de personnages.
Хотелось, чтобы роман действовал на нескольких уровнях, чтобы это был одновременно и исторический роман, из которого можно было бы узнать какие-то факты и понять правдивую картину, с одной стороны, на первом уровне.
Je voulais que le roman fonctionne sur plusieurs niveaux, donc le niveau historique, je voulais qu'on puisse comprendre ce que c'était la découlakisation et apprendre des choses, c'était un niveau.
На втором уровне, чтобы это было все-таки драматургическое произведение, где большая история подталкивает драматургию, подталкивает отношения героев.
Mais je voulais quand même qu'il y ait vraiment une histoire, une narration, une dramaturgie, et que la grande histoire pousse, enfin soit un élément comme ça qui fasse avancer la narration.
И на третьем уровне, чтобы история работала также мифологически, чтобы она рассказывала о человеке, который преодолевает мифологическое сознание.
Et il y a une troisième dimension plus qui parle du mythe et d'une personne qui arrive à sortir de la dimension mythique.
Без привязки к национальности или конкретному временному периоду, когда происходит роман.
Et là, il n'y avait plus, c'était plus aussi important l'époque ou le contexte historique.
De ce point de vue, votre roman est extrêmement intéressant parce qu'en effet, il ouvre une nouvelle ligne dans la littérature du goulag. Vous n'êtes pas seul à creuser cette ligne. Actuellement en Russie, il y a d'autres auteurs qui se sont emparés de ce thème. On pense à Priliepin, on pense à Lebedev, deux auteurs contemporains qui se sont aussi emparés de ce sujet et qui en font radicalement autre chose. Quel rapport entretenez-vous à ces auteurs ?
Мне очень понравился роман Захара Прилепина «Обитель».
J'ai beaucoup aimé le roman de Zachar Prilepin, «Обитель», c'est le monastère.
Признаюсь, это было единственное художественное произведение на тему ГУЛАГа, которое я разрешила себе прочитать во время написания романа.
Je dois avouer que c'est la seule œuvre donc de fiction que je me suis permise de lire pendant que j'écrivais le roman.
«Обитель» Прилепина — это великолепный приключенческий роман.
C'est un roman d'aventure. Ce roman de Prilepin,
который разворачивается в системе ГУЛАГа.
Mais qui a lieu à l'intérieur d'un goulag.
Такое сложно было себе представить еще лет 20 назад.
C'était difficile de s'imaginer un tel roman il y a 20 ans.
Но сейчас, да, такой роман состоялся, получил большую книгу в 2013 году, и у него огромные, прекрасные тиражи.
Mais oui, maintenant c'est possible d'écrire un tel roman. Il a de gros tirages et il a reçu un prix littéraire, le Bolshaïa Kniga, le grand livre aussi.
Je propose de continuer notre pérégrination dans votre texte et à travers la Sibérie. On va lire un petit extrait pour que le public ait l'eau à la bouche, une petite lecture bilingue. Il y en aura une autre demain. Que vous soyez d'ores et déjà mis au courant, une lecture bilingue qui aura lieu à 16h au lieu La Nouvelle Couronne. Mais déjà, une petite lecture, je vous ai demandé à toutes les deux de lire le début de la troisième partie, donc le moment où les déportés arrivent sur les bords de l'Angara, là où ils vont devoir construire à partir de rien, mais strictement rien, un village et une nouvelle vie. Je vous laisse écouter d'abord Gouzel Yakhina nous lire cet extrait en russe, et puis Maud nous lira sa très belle traduction ensuite.
30. С утеса Ангара открывалась как на ладони. Пышная зеленая грудь левого берега круто вспучивалась, словно подоспевшая в кадушке тесто. Падала ярким изумрудным отражением свинцовое зеркало реки. Вода тяжелым широким полотном лениво велась вокруг, уходила в синеву горизонта, к Енисею, туда, куда ушел недавно катер кузнеца. Правый берег, на котором расположились переселенцы, у воды стелился низко, покладисто, а потом вскипал раскидистым пригорком, перерастал в громадины холмов, щерился клыками утесов. На одном из них сейчас и стоит Игнатов, разглядывая простирающуюся внизу тайгу. Лагеря отсюда видно не было. Он был где-то глубоко внизу, в складках холма. Игнатов и не хотел сейчас никого видеть. До сих пор смотрел на все, будто со стороны. Кто это стоит, одетый, по пояс в воде, отряхивая запутавшиеся в волосах снежинки? Неужели он? Кто отдает приказ? Разжечь костер, наломать веток для шалаша. От лагеря ни на шаг, сволочи. И уходит в тайгу на охоту. Неужели он? Кто бредет звериными тропами, трещит по валежнику, ползет по заросшим мхом и сухой травой камням на утес? Неужели он? Вот садится на пригретый солнцем валун, зажмуривается. Сквозь прохладу все еще влажной одежды ощущает тепло нагретого камня. Ладонь колет ломкая щетинка мха. Пара комаров звенит у уха, но ветер сдувает их, и звон улетает, растворяется вдали. В ноздри летит свежесть большой воды, терпкий запах тайги, ели, сосны, лиственницы, духмяное разнотравье. Так и есть он, Иван Игнатов, здесь, в Сибири. Утопил 300 вражеских душ в Ангаре. Оставлен комендантом при горстке полуживых антисоветских элементов, без продовольствия личного состава, с приказом выжить и дождаться прихода следующей баржи. Положим, он их не топил, а пытался спасти. «Пытался» — слово для слабаков, так говорит Бакиев. «Коммунист не пытается, он делает». «Да не мог я их спасти, не мог, старался, из кожи лез, сам чуть не утонул». «Так ведь не утонул же, а они все утопли, рыб сейчас кормят на дне». «Неужели было бы лучше, если бы я утонул вместе с ними? Да и кто они такие? Кулаки, эксплуататоры, обуза для советской власти, враги, расплодятся еще, как говорил кузнец». «Чужими словами свою вину прикрыть хочешь? Да и чьими словами-то? Кузнеца, суки». Дурные мысли, как гвозди, вколачиваются в мозг, колют его на части. Игнатов снимает фуражку, собирает волосы в ладонь, тянет, словно хочет сорвать с черепа. Приказывает отставить. Занять руки делом, а ноги ходьбой. Утомить, умотать, уморить тело, чтобы не думалось. Или думать о другом. Он смотрит на серо-голубую размытую кромку горизонта. Следующая баржа придет оттуда. Когда? Кузнец обещал, что скоро. Они шли сюда 3 дня. Кузнец на своем катере добрался быстрее, за день. Положен день на обратную дорогу, 2 на бюрократические проволочки в конторе и загрузку новой баржи. 3 дня на возвращение к Игнатову. Итого неделя. Надо продержаться неделю.
Trente. Depuis la falaise, l'Angara s'offrait au regard sur des kilomètres. L'opulente poitrine verte de la rive gauche montait haut, gonflée comme une patte bien levée dans son baquet, et se reflétait doucement, avec des brillances d'émeraude, dans le miroir plombé de la rivière. L'eau lourde faisait des détours paresseux, déployait sa large toile jusqu'à l'horizon bleuté, jusqu'à l'Énissier, là où la vedette de Kouznets avait disparu. La rive droite, où se trouvaient les déplacés, était basse près de l'eau, en pente douce, mais plus loin elle cabriolait, formait un large coteau, puis éclatait en colline haute, se hérissait de falaises pointues, pareilles à des canines. Ignatov était penché sur l'une de ces falaises, contemplant la taïga qui s'étendait à ses pieds. On ne voyait pas leur camp, ils étaient en contrebas, dans les plis d'une colline. Mais Ignatov ne voulait voir personne pour le moment. Il en était encore à regarder la situation en spectateur étranger. Qui s'était trouvé dans l'eau jusqu'à la taille, secouant un flocon de neige dans ses cheveux? Lui, vraiment? Qui avait donné des ordres? Allumer un feu, casser des branches pour construire une hutte, interdiction de faire un pas hors du camp, vermine, avant de partir chasser dans la taïga. Lui, vraiment? Qui avait suivi des pistes d'animaux, faisant craquer du bois mort, et avait grimpé sur des rochers couverts de mousse et d'herbes sèches, sur la falaise? Lui encore? Le voilà qui s'assied sur un gros caillou chauffé par le soleil. Il plisse les yeux. À travers la fraîcheur de ses habits toujours humides, il sent la chaleur de la pierre. D'une main, il arrache un morceau de mousse hirsute. Des moustiques volent contre son oreille, mais le vent les chasse et leur vrombissement s'éloigne, disparaît dans le lointain. La fraîcheur de la rivière et le parfum âpre de la taïga, pin, sapin, mélèze, fleurs des champs odorantes, pénètrent dans ses narines. C'est bien cela. Lui, Ivan Ignatov, est en Sibérie. Il a noyé 300 individus hostiles dans l'Angara, a été nommé commandant d'une poignée d'éléments antisoviétiques à demi-vif, sans provisions ni effectifs, avec l'ordre de survivre et d'attendre l'arrivée de la prochaine péniche. Admettons qu'il ne les a pas noyés, mais a tenté de les sauver. Tenter, c'est bon pour les faibles, aurait dit Bakiev. Un communiste ne tente pas, il réalise. Mais je n'ai pas pu les sauver, non. J'ai fait tout mon possible, j'ai essayé de toutes mes forces. J'ai failli me noyer moi-même. Mais tu ne t'es pas noyé. Tandis qu'eux ont tous coulé, ils nourrissent les poissons au fond de l'eau en ce moment. Et alors, ça aurait été mieux si je m'étais noyé avec eux? Et qui étaient-ils? Des coulaques, oui, des exploiteurs, des poids morts pour les soviets, des ennemis qui sauront toujours se reproduire, se multiplier, comme le dit Kouznets. Tu utilises les mots d'un autre pour couvrir ta faute. Et quel autre, Kouznets, ce salopard? Des pensées mauvaises s'enfoncent dans son cerveau comme des clous, le déchirent. Ignatov enlève son képi, passe la main dans ses cheveux, les tire comme s'il voulait les arracher de son crâne. Il s'ordonne, ça suffit. Que ses mains soient occupées à travailler, ses jambes à marcher. Il faut fatiguer son corps, l'épuiser, le tourmenter, pour qu'il ne pense plus. Ou alors qu'il pense à autre chose. Il regarde le liseré bleu-gris détrempé de l'horizon. La prochaine péniche viendra de là. Quand? Kouznets a promis que ce serait bientôt. Ils ont mis 3 jours pour venir ici. Kouznets est arrivé plus vite sur sa vedette en 1 jour. Donc il lui faudra 1 jour pour rentrer, 1 ou 2 jours pour passer les étapes bureaucratiques au GPU et charger la péniche, 3 jours pour revenir vers Ignatov. En tout, 1 semaine. Il faut tenir 1 semaine.
Merci, j'ai demandé de lire cet extrait pour que... Oui. J'ai choisi cet extrait pour que le public se rende bien compte que nous ne sommes pas que dans un roman historique, qu'il n'y a pas que cette force de l'histoire, mais aussi une narration particulière, un rythme particulier, des personnages dont j'aurais peut-être dû dire que cet Ignatov dont il est question ici est le bourreau, en quelque sorte, le commandant de cette troupe de déportés, commandant soviétique. On va revenir sur ce personnage dans un instant, mais avant j'aurais aimé parler aussi du style, parce que ce que vous avez entendu, c'est aussi un très beau morceau stylistique. C'est un texte très poétique et d'un très grand réalisme aussi. Or, nous sommes dans un endroit... un nouveau non-lieu, après ce non-lieu qui était le voyage, nous sommes dans un nouveau non-lieu, c'est un lieu qui n'existe pas, qui n'existe sur aucune carte, qui n'a pas encore de réalité géographique avant l'arrivée de ces gens. Et ce non-lieu qui va devenir un lieu, il est décrit avec un très grand réalisme. Alors, est-ce que c'est votre œil cinématographique? Est-ce que c'est votre imaginaire? Est-ce que c'est... votre connaissance des lieux, est-ce que vous êtes allé au bord de l'Angara, qui vous donne les moyens de nous transmettre avec autant de réalisme la réalité de ce lieu, de ce non-lieu?
Мне очень стыдно.
J'ai honte.
Потому что я не была на Ангаре до того, как написала роман.
Parce que je ne suis jamais allée sur l'Angara avant d'écrire ce roman.
Впервые я поехала на Ангару в Красноярск на Красноярскую ярмарку уже с изданной книгой представлять ее.
Donc la première fois que je suis allée dans cette région à Красноярск, c'était à la foire du livre de Красноярск avec le livre déjà édité.
Описанная мною тайга – это уральская тайга, которую я очень хорошо знаю.
La тайга que je décris, c'est la тайга de l'Oural que je connais très bien.
Я хотела, конечно, съездить на то место, где когда-то давно жила в ссылке моя бабушка.
Bien sûr, j'aurais voulu aller dans le village où ma grand-mère a vécu à l'époque.
Но для этого только представьте себе, мне нужно было сначала долететь на самолете из Москвы до Красноярска.
Mais imaginez-vous le voyage que ça représente. Je devais d'abord prendre l'avion de Moscou à Krasnoyarsk.
Затем ночь ехать на поезде до Лесосибирска.
Puis prendre un train toute la nuit jusqu'à Лесосибирск.
Затем сесть с туристической группой на байдарке и две недели плыть по рекам до того места, где когда-то давно располагался таежный поселок.
Et puis après prendre une barque,
Две недели.
Et puis voguer pendant deux semaines sur l'Angara pour retrouver le village de ma grand-mère.
Что такое путешествие я, пожалуй, не одолею.
Et j'ai compris que je n'arriverais pas à faire ce voyage.
И написала, исходя из фантазии.
Et là, vraiment, j'ai inventé.
Потому что сейчас того места, того поселка, где жила бабушка, его не существует на карте.
Parce que le village où a vécu ma grand-mère, il n'existe plus sur la carte.
Как и многих других трудовых поселений, которые были созданы в 30-е годы, а потом, после 40-х годов, и в основном, конечно, после распада Советского Союза, их не стало, они исчезли.
Comme beaucoup de ces villages qui ont été créés justement pour ces exilés, où habitaient ces exilés forcés, ces déportés, ils ont disparu, et surtout après la perestroïka, ils ont encore plus disparu.
Исчезли по естественным причинам. Если это просто глухая тайга и река, и до ближайшего населенного пункта несколько сотен километров, конечно, люди не хотели там оставаться жить.
Et ils ont disparu pour des raisons évidentes, c'est que quand on est au milieu de la taïga, au bord d'une rivière, à des centaines de kilomètres de la prochaine ville ou du prochain plus grand village, les gens ne veulent pas rester.
Я нашла в интернете фотографии того места, где жила моя бабушка в ссылке в 30-е годы, и это просто разрушенные фундаменты, сквозь которые уже проросли деревья. То есть тайга практически забрала себе обратно этот маленький кусочек пространства.
Et j'ai trouvé sur internet des photos de l'endroit où ma grand-mère a vécu dans la taïga. Il ne reste plus aujourd'hui que les fondations des maisons en bois, et il y a déjà des arbres qui poussent dessus, et ça veut dire que la taïga est déjà en train de reprendre ce morceau qui lui avait été arraché.
Что же касается кинематографичности, то да, роман был изначально написан как сценарий.
En ce qui concerne l'aspect cinématographique, je peux dire que le roman a d'abord été écrit sous la forme d'un scénario.
Я училась в Московской школе кино, и одна из моих учебных работ был полнометражный сценарий полнометражного фильма на 180 минут.
Et donc j'ai étudié comme scénariste à l'école de cinéma de cinéma de Moscou et un de mes travaux était un scénario pour un film de 180 minutes.
И 80% того, что было написано в сценарии, вошло в роман.
Et 80% de ce qui figurait dans le scénario est dans le roman.
Мне очень хотелось, чтобы читатель посмотрел также и фильм. Да, чтобы он, читая роман, как будто бы посмотрел фильм.
J'avais très envie que qu'en lisant le livre, le lecteur voit aussi le film.
C'est très réussi. On s'en rend compte tout de suite. Vraiment, on a une force cinématographique. On suit les personnages d'un plan large à un plan plus serré. Chaque scène est extrêmement bien construite de ce point de vue-là. La critique a souligné ce talent cinématographique de votre écriture. Il y a aussi un grand travail sur la langue. Est-ce que vous avez beaucoup travaillé ensuite sur la langue pour passer du scénario au roman ? Parce que c'est évidemment deux formats tout à fait différents.
Да никак не работала, сидела и писала.
Bah oui, j'ai dû écrire.
Писалось так, как чувствовалось, и это очень здорово, когда текст начинает тебя вести сам.
J'ai écrit comme je l'ai senti, et c'est toujours très bien quand le texte commence à s'écrire tout ça, à venir tout seul.
Моя работа с редактором заключалась в том, что меня редактор попросила все-таки добавить литературности, потому что изначально текст был еще более кинематографичен и суховат.
Mon travail avec le rédacteur a consisté en ceci, qu'à certains endroits, le rédacteur me demandait de rajouter de la littérature parce que le texte, au départ, était plus sec et encore plus proche d'un scénario.
Если можно так выразиться, то я на скелет сценария нарастила потом литературное мясо.
Donc on peut, si je peux m'exprimer ainsi, je peux dire que sur le squelette qui était le scénario, j'ai fait pousser la chair qui était l'écriture.
Ça me permet de me retourner une fois de plus vers Maud pour parler un peu plus précisément de traduction. C'est aussi le but de notre rencontre. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour tout le monde de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un traducteur, qu'est-ce que c'est de la traduction, comment ça fonctionne d'un point de vue pratique. Ça veut dire, tout bêtement, est-ce que vous lisez un texte, il vous plaît, vous commencez la traduction, vous la proposez à un éditeur, ou est-ce qu'on a des intermédiaires? Comment ça se passe d'un point de vue pratique, la décision de traduire un texte?
Il y a plusieurs cas de figure. Je vais commencer par la réponse générale. Donc, on peut lire un texte, le proposer, et dans ce cas-là, effectivement, en général, on fait 10 pages, 15 pages de traduction pour montrer. On peut recevoir une commande et l'accepter. Et moi, dans le cas de Gouzel, j'ai demandé à le traduire.
Et ensuite, peut-être on part dans des questions très, très, très précises, mais mettons pour un ouvrage comme celui-ci, ça prend combien de temps pour traduire un ouvrage de 400 pages?
Je ne peux pas le dire devant Gouzel, parce que j'ai entendu des interviews où elle disait en combien de temps elle avait écrit, et j'ai l'impression des fois que je l'ai traduit en plus de temps. Non, mais bon, comme peu de traducteurs ne font que la traduction dans la vie, donc je ne peux pas être le matin au soir sur une traduction. Mais c'était long, oui, ça a mis des mois et des mois, mais moins qu'une année.
Moins d'une année.
Ou très peu, mais...
Et comment est-ce que vous travaillez? Vous travaillez chez vous, entouré de 1000 dictionnaires différents, un dictionnaire russe-russe, un dictionnaire russe-français, un dictionnaire des synonymes, un dictionnaire des... etc., etc. Ou est-ce que vous vous évadez, vous lisez, vous travaillez dans un café?
Ça me fait penser à... une écrivain, je ne dirais pas qui c'était, mais à qui on a posé la question si elle avait besoin de ses habitudes pour écrire, de son thé, et elle a un peu éludé la question, puis après elle m'a dit, elle est venue me voir, puis elle m'a dit, tu sais, ça fait 3 ans que je vis dans une yourte, parce qu'on est en train de construire la maison, donc voilà, je voulais pas tout leur expliquer, parce que c'était un peu compliqué. Alors c'est pas mon cas, mais moi, c'est peu importe où je suis, j'ai juste besoin de temps et de pouvoir m'y consacrer. Oui, j'ai besoin de consulter des dictionnaires, pas forcément sur papier, même presque plus malheureusement. Et j'ai besoin de beaucoup de temps. Alors, je pense que chaque personne a sa technique. Moi, contrairement à quand Gouzel écrit, comme c'est quand même un style que je dois rendre et pas inventer, il y a des moments où ça vient naturellement, mais je fais beaucoup de passages, c'est-à-dire j'ai un premier jet où je laisse des fois des morceaux que je ne sens pas, et en fait avec le temps je reviens à la lecture, je retravaille ce que j'ai fait, et avec le temps le texte s'affine vraiment, et après je dois encore relire plusieurs fois.
Il faut entrer dans la langue de chaque auteur.
Oui, mais ça peut être aussi à la lecture. Mm-hmm. On entre dans une langue, dans un rythme.
Mm-hmm. Ensuite, la traduction, c'est un passage entre deux langues. On parle de langue source et de langue cible. Certains traducteurs estiment qu'il faut privilégier la langue d'origine, la langue source. D'autres estiment qu'il faut privilégier la langue d'arrivée. D'autres encore, je crois que c'est Umberto Eco qui dit que finalement c'est une histoire de négociation. Il faut trouver une bonne entente entre les deux langues. Est-ce que vous avez un avis sur ça?
Moi, j'ai un avis de lecteur. Quand je traduis un livre, j'ai d'abord lu un livre, et je sais que c'est impossible que ça soit parfaitement la même chose, mais je rêve toujours que mon lecteur francophone ait les mêmes sensations que moi j'ai eues en tant que lecteur russophone. Par exemple, dans le cas de Gouzel, en lisant le livre, une chose qui frappait tout d'emblée, c'était le style. Il nous entraîne, il est à la fois... il a l'air de couler de source, il est pas si simple, mais il a l'air simple, il est pas heurté, il est à la fois élégant et simple. Et j'avais besoin, pour moi c'était un gros défi parce que j'avais besoin de me rapprocher de ça, et puis en même temps, alors on a parlé du regard cinématographique, moi ce qui je trouve est très très présent dans son livre, c'est tous les sens en fait, on entend, on sent des odeurs, c'est ce qui permet aussi d'être un peu tellement à l'intérieur du personnage, on entend ce qu'elle entend ou ce que les autres personnages entendent, on sent les odeurs, et le toucher, j'étais impressionnée par tous les tissus, le rêche, enfin bon, voilà. Donc voilà, il y avait tout ça à travailler, et puis il fallait que toutes ces sensations, elles reviennent vers le lecteur, qui n'a pas forcément tout le contexte du lecteur russe ou toutes les mêmes références, mais qu'au moins il ressente toutes ces choses. Et c'est pour ça que source, cible, tout ça, c'est pour moi moins important. J'aimerais que la lecture soit autant que possible la même.
On se sent responsable de quelque chose quand on traduit ?
Oui, bien sûr. Là, en français, en ce moment, pour ce livre, elle n'a qu'un traducteur, donc elle n'a pas le choix. Et j'ai la responsabilité de rendre le livre. Et là, comme justement la langue était tellement belle, j'avais la responsabilité de ça.
Quand on est traducteur, on vit.
Par contre, pour toute la partie qui était la construction, le découpage et tout ça, là, j'ai quand même reposé. Ça, c'est l'écrivain qui a fait tout le travail.
Je disais, quand on est traducteur, on vit entre deux langues. Et Gouzel, qui parle également le tatar, vit aussi entre deux langues. D'où une question à toutes les deux. Qu'est-ce que ça implique pour vous de vivre entre deux langues ou avec deux langues? C'est évidemment, on le conçoit bien, un plus, mais est-ce que ça implique aussi des difficultés particulières, quelque chose? Comment vous vivez entre deux langues?
Je réponds peut-être en premier. Moi, j'aime beaucoup vivre entre deux langues. Je vois vraiment beaucoup plus de plaisir que de difficultés. Je le vis extrêmement bien. Là, j'habite à Moscou, mais je travaille évidemment avec le français. J'aime toujours autant le français. C'est ma langue de l'enfance, donc ma langue maternelle, parce que c'est de l'enfance. Le russe est la langue qui... J'ai commencé à faire du russe à l'adolescence, donc c'est la langue de ma construction. Donc elle a aussi une très forte charge émotionnelle pour moi. Je pense que les deux langues s'enrichissent, enfin que oui, que de pratiquer deux langues, c'est un enrichissement. Alors oui, des fois on oublie des mots, ou le mot nous vient dans la mauvaise langue, mais c'est plus un enrichissement qu'un appauvrissement ou qu'un problème. Et le seul problème, on en parlait aujourd'hui, c'est que quand je lis en français, j'ai l'impression que je lis pas assez en russe, et quand je lis en russe, j'ai l'impression que je lis pas assez en français. Donc voilà, on est quand même sur, on peut pas faire les deux à la fois.
Ну, расти на двух языках с двумя языками, это, наверное, как пить из двух источников.
Avoir deux langues, c'est comme de boire à deux sources.
Я до 3 лет говорила только по-татарски, и когда уже пошла в детский сад и в школу, в мою жизнь пришел русский.
J'ai parlé que tatar jusqu'à mes 3 ans, et quand j'ai commencé le jardin d'enfants après l'école, c'est là que le russe est entré dans ma vie.
Первые литературные опусы свои я делала, конечно, по-русски, и сейчас я пишу только по-русски, по-татарски вряд ли смогла бы.
Mais j'ai commencé à écrire en russe, et aujourd'hui je n'écris plus qu'en russe, et je ne pense pas que je serais capable d'écrire en tatar.
Но для того, кто родился и вырос в Казани, вопрос национальности, он, мне кажется, не стоит.
Mais pour les gens qui sont nés et qui ont grandi à Kazan, je crois que la question de quelle nation on appartient, à quelle ethnie on appartient, n'existe pas.
Мы в Казани просто наслаждаемся этим ощущением жизни на границе двух культур. И это ощущение на границе, ну, для меня лично самое комфортное.
À Kazan, on profite, en fait, on tire plaisir du fait qu'on vit à la frontière de deux cultures, de deux langues. Et moi, cette sensation d'être à la frontière de deux langues, c'est une sensation que j'aime beaucoup.
Когда мне задают вопрос, татарская писательница или русская, я предпочитаю отвечать, что я казанская. Мне кажется, это много больше, чем татарская или русская в отдельности.
Et quand on me demande si je suis une écrivain tatar ou russe, je préfère répondre que je suis une écrivain de Kazan.
Merci, on va revenir encore quelques instants, il ne nous reste pas beaucoup de temps malheureusement, au roman et au personnage d'Ignatov, qui est donc le personnage de l'extrait que nous venons de lire. C'est un personnage qui pose problème. C'est un personnage qui pose problème parce que c'est, je le disais, le bourreau, c'est l'assassin du mari de Zuleïkha. Certes, Zuleïkha n'aimait pas forcément d'un amour profond son mari, mais enfin, son mari ne la traitait pas forcément de la meilleure manière qui soit, mais il n'empêche que Ignatov est l'assassin de son mari. Au moment où on le trouve... Dans notre extrait, Il est responsable de la mort de centaines de personnes. Il est seul en train de regarder l'Angara, on l'a abandonné. Il est avec ses déportés, un peu inquiet, et le lecteur a, de fait, pitié de lui. À d'autres moments, le lecteur va ressentir non seulement de la pitié, mais peut-être d'autres sentiments positifs à son égard. C'est ça aussi qui change dans votre texte par rapport à la tradition littéraire dont on parlait tout à l'heure. On peut avoir, quelque part, de la compréhension pour les bourreaux. Est-ce que vous expliquez peut-être certaines rares critiques négatives de votre roman par ce sentiment-là ? Est-ce que la compassion que le lecteur peut avoir pour le bourreau explique certaines critiques négatives ? Pourquoi vous avez décidé par ailleurs de donner à ce personnage des traits positifs ?
Игнатов – это второй главный персонаж книги «Вслед за Зулейхой».
Oui, Игнатов – c'est le deuxième personnage principal du livre après Зулейка.
И в образе Ивана Игнатова, русского красноармейца, я постаралась описать все лучшее, что я знаю о красноармейцах в принципе.
Et dans le personnage de Ivan Ignatov, soldat de l'armée rouge, j'ai essayé de mettre tout le positif que je connaissais sur un soldat de l'armée rouge.
Он честный, открытый, волевой, храбрый, готовый к самопожертвованию. То есть такой вот факел революционной идеи.
Il est honnête, courageux, hardi, prêt au sacrifice. Donc c'est un peu le porte-drapeau comme ça de la révolution.
При этом он раздираем на части. Его раздирает на части. С одной стороны, он должен охранять тех кулаков, которых он везет в Сибирь. Он должен пристрелить их в случае побега. Он должен быть действительно палачом.
Mais il est très divisé parce que d'un côté, il doit s'occuper de ces kulaks qu'on lui a confiés. D'un autre côté, si un kulak essaie de s'enfuir, il doit l'abattre. Donc effectivement, il est aussi un bourreau.
С другой стороны, как комендант поезда и позже комендант поселка, он должен лечить их, он должен их кормить, ходить на охоту, чтобы добывать им пропитание. Он должен заботиться о них, как родной отец.
D'un côté, comme commandant d'abord du convoi et ensuite du village dans la taïga, il doit les soigner, les nourrir, leur trouver de la nourriture. Donc il est un peu comme leur père.
И вот эти вот два долга, долг идеологический и долг человеческий, они его раздирают очень-очень долго, пока в конце он не выбирает, собственно, сторону, а именно сторону переселенцев.
Et donc ces deux aspects, l'aspect idéologique et l'aspect humain, le dévore, sont un problème pour lui jusqu'à la fin où il prend la décision du côté de l'humain.
И да, мне очень хотелось, чтобы Игнатову сочувствовали.
Et oui, moi j'aimerais qu'on ait de la compassion pour Ignatov.
Потому что в то время, в то трагическое время, очень часто границу между палачами и жертвами было очень сложно провести.
Parce que dans ces périodes très tragiques, c'était parfois très dur de démarquer les victimes des bourreaux.
Палачи часто становились жертвами сами, и вы это знаете прекрасно.
Les bourreaux devenaient souvent à leur tour les victimes, vous le savez bien.
Очень многие из тех, кто строил советскую систему, позже сами оказались ею же и погублены.
Beaucoup de ceux qui ont contribué à construire le système soviétique ont été détruits par le système soviétique lui-même.
И также иногда жертвы могли становиться палачами.
De même, les victimes pouvaient parfois devenir des bourreaux.
И в романе есть такой герой, его зовут Василий Горелов, который из ссыльного позже становится комендантом поселка, то есть поднимается над всеми и становится из жертвы палачом.
Et il y a un héros comme ça dans le livre, c'est Vassili Gorelov qui, de déporté, devient à la fin le commandant du village.
А Игнатов как продукт системы оказывается этой же системой раздавлен.
Et Ignatov, qui est un produit du système, finit écrasé par le système.
Merci beaucoup pour ces réponses. On a encore beaucoup de personnages sur lesquels on aimerait revenir pour discuter plus longuement de ce roman. Malheureusement, le temps va nous manquer. Je pose une dernière question avant peut-être de vous laisser la parole. Peut-être qu'il y a des questions du public. Il y a un autre personnage qui est particulièrement touchant, c'est Ikonikov, qui est l'artiste. Et du coup, sans dévoiler son destin personnel, ça me permet de vous interroger juste sur la place de l'art dans le roman, parce que à travers Ikonikov, à travers un autre personnage, le fils de Zulikha, on a malgré tout l'impression qu'il y a une voie de sortie, une voie de sortir de l'histoire, sortir du malheur à travers l'art. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez? Est-ce que vous avez l'impression que l'art, la littérature, apporte quelque chose de particulier à l'histoire passée et présente?
Именно это и происходит, потому что искусство в романе, изобразительное искусство в случае Иконникова, это как раз-таки и есть территория свободы.
Oui, effectivement, dans le roman, l'art, alors c'est l'art plastique, dans le cas Ikonikov est plein peintre, c'est un territoire de liberté.
Потому что там, на берегах Ангары, люди говорят иногда по-французски, а Иконников пишет Париж.
Parce que là-bas, sur ces lointains bords de l'Angara, les gens parlent parfois entre eux en français et Ikonikov fait des tableaux de Paris.
Париж, кстати, возникает достаточно часто в романе как некая символическая география, как обозначение свободы.
И Париж apparaît assez souvent dans le roman comme une espèce de symbole de la liberté.
Через те картины, которые пишет художник Иконников, сын Зулихи узнает мир.
Et par les tableaux que peint Ikonikov, le fils de Зулейха apprend à connaître le monde.
Мальчик вырос на Ангаре и никогда в жизни не видел козы, коровы, нормального яблока или арбуза.
Cet enfant qui a grandi dans la taïga n'a même jamais vu de vache ou de chèvre, de pastèque.
Et все эти предметы, и все эти обычные для нас, казалось бы, существа, мальчик узнает через картины Иконникова.
Et toutes ces choses qui pour nous semblent faciles et familières pour le fils de Зулейха sont découvertes à travers les tableaux d'Ikonikov.
То есть искусство, изобразительное искусство становится для Юзуфа, сына Зулейхи, также еще и окном в мир.
Donc pour le fils de Зулейха, la peinture devient une fenêtre vers le monde.
Окном в мир, которое выносит его позже в большой мир. Благодаря этому он в конце концов и освобождается из поселения.
Et cette fenêtre vers le monde va l'attirer et lui donner une porte de sortie et finalement il pourra quitter la taïga.
Merci. Avant de vous passer la parole pour d'éventuelles questions, je précise que Gouzel Yakhina va volontiers procéder à une séance de dédicace. Donc vous pourrez lui poser en tête à tête d'éventuelles questions si l'une ou l'autre des traductrices veut bien rester à côté, si vous ne parlez pas russe. Donc cette séance de dédicace, elle a lieu maintenant ici même ou juste en dessous. Et puis à 17h, vous êtes tous cordialement invités à un petit apéritif que nous propose et nous offre les éditions Noir sur Blanc qui fêtent leur anniversaire. Et donc là encore, dans ce même bâtiment, au petit salon du restaurant, dès 17h aura lieu cet apéritif. Je remercie déjà les participantes de ce débat, auteurs, traductrices. Merci particulièrement aussi, nous ne l'avons pas mentionné, à Eva Antonikova. Voilà, je l'ai noté quelque part, mais je ne sais plus. Eva Antonikov, pour le dire à la française, qui a bien voulu traduire vers le russe nos discussions. Et je vous laisse la parole si vous avez d'éventuelles questions.
Спасибо.
Je me réjouis infiniment de lire ce livre dont j'ai lu un article très élogieux dans la presse la semaine dernière. Et je voudrais savoir si le scénario dont vous avez parlé tout à l'heure, dont le livre est tiré, a été tourné en film, si le film existe.
Да, права на экранизацию купил телевизионный канал «Россия», и они уже написали сценарий. Надеюсь, что они этот сценарий воплотят. Речь идет о мини-сериале на 8 серий.
Oui, alors les droits sur ce livre ont été pour mettre à l'écran ce livre ont été achetés par la chaîne Rossiya. Ils ont eux écrit un scénario pour une mini-série de 8, donc 8 petits films. J'espère qu'ils ont terminé et que ça va être mis à l'écran.
Mais vous-même, vous n'avez pas fait de film après avoir écrit le scénario pendant vos études ou à la fin de vos études cinématographiques.
Вы знаете, я столько уже прожила с историей Зулейхи, так долго, 3 года, что жить дольше я не смогла, поэтому я отказалась писать сценарий, его писали профессиональные сценаристы канала «Россия».
Vous savez, j'ai vécu déjà si longtemps avec Zulayka, 3 ans, que je ne pouvais plus continuer avec elle, donc j'ai demandé aux professionnels de cette chaîne de l'écrire.
Lorsque vous évoquez ce roman, vous avez évoqué la figure féminine centrale, et puis on a évoqué la figure aussi du bourreau, et on a une vision, ça donne une vision assez en contrepoint, disons, de ce roman, parce qu'il s'est dit ici. Simplement, je me suis fait raconter une scène proprement inouïe. De ce roman qui touche à un autre personnage et qui me semble pouvoir donner une vision encore plus exacte, c'est-à-dire polyphonique de ce roman, c'est la figure de ce médecin qui est au moment de l'accouchement de Zulayka. Il me semble que à elle seule, cette scène à elle seule est tellement inouïe que j'aimerais bien que vous en parliez un peu parce qu'elle donne vraiment une architecture autre à la totalité du roman.
Да, в романе есть достаточно подробно описанная сцена родов, когда Зулейха рожает сына.
Oui, dans le roman, il y a une scène assez détaillée de l'accouchement quand Зулейха donne naissance à son fils.
Et она описана с точки зрения доктора, который там в тайге в полевых условиях принимает сложные роды.
Et donc la scène est décrite du point de vue du médecin qui, dans la taïga, sans aucun instrument, doit aider cette femme à accoucher, et c'est un accouchement difficile.
Моя свекровь, акушер с 40-летним стажем, описала мне, как в такой ситуации действовал грамотный врач.
C'est ma belle-mère qui est elle-même gynécologue qui a 40 ans d'expérience qui m'a expliqué comment dans ces conditions-là se comporterait un bon médecin.
Я переложила это на литературный язык, и после выхода книги многие бывшие коллеги моей свекрови звонили ей и говорили: «Мы узнали твой акушерский почерк».
Et quand donc j'ai réécrit son récit dans ma langue, enfin avec mes mots, et quand le livre est sorti, des collègues de ma belle-mère l'ont appelé et ont dit: dans cette scène, on a reconnu ta signature, donc dans la façon d'accoucher.
То есть то, каким именно образом были приняты роды, это почерк моей свекрови.
Donc vous pourrez lire la signature de ma belle-mère sur la façon dont l'accouchement est conduit.
И за эту сцену моя совесть спокойна совершенно.
Alors sur cette scène, ma conscience est tout à fait tranquille.
Но эта сцена роды, она еще и двойная, потому что это не только роды мальчика, это также и роды самого врача в переносном смысле.
Mais cette scène a un double sens parce que ce n'est pas seulement la naissance de ce petit bébé, c'est aussi une renaissance de ce professeur.
Потому что в тот момент, когда врач принимает роды, у него разрушаются его болезненные иллюзии, и он становится адекватным человеком.
Parce qu'au moment où il fait ses gestes pour aider Zulayka à accoucher, le médecin détruit en même temps ses illusions maladives et puis peut redevenir quelqu'un de normal.
Ce n'est pas tellement une question, mais je voudrais juste rebondir sur quelque chose parce que j'ai commencé le livre hier, je l'ai acheté pendant la semaine, après avoir lu l'article dans le journal, et j'ai eu très très envie de l'avoir. Et j'ai commencé hier à le lire, et je pense que déjà après 3 pages, 4 pages, j'avais, sur le style, pu sentir tout ce qu'on a dit vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire j'étais dans cette isba, je voyais vraiment, je la voyais tout autour de moi, je voyais l'escalier, je voyais tout. Et aussi, en très peu de pages, j'avais senti comment tous mes sens étaient, étaient pris dans l'histoire, comment tous les détails auditifs et puis tactiles et au goût aussi gustatif, tous étaient là et j'étais complètement impressionnée par la densité de ce texte dès les toutes premières pages. Et ça, je suis très très émue parce que je n'ai pas souvent senti ça dans un livre.
Спасибо большое.
Merci. Merci.
On va peut-être s'arrêter là, vu qu'on a déjà dépassé notre temps de 5 minutes. Je vous remercie encore d'être venu et vous répète l'invitation à continuer cette discussion, soit autour du livre, soit autour d'un verre, ici dessous. Merci.
Спасибо.